Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Christian.
Bonsoir Caroline.
Alors Christian, de quoi voulez-vous me parler ce soir ?
Alors, je ne sais pas ce que j'ai la possibilité de vous dire.
Oui.
Mais tout d'abord, je vais, comme j'ai exprimé à Paul,
oui.
J'ai un problème de santé.
D'accord.
Alors,
qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, j'ai subi en 3 ans 5 AVC.
Ah bon ?
Oui. Alors.
Oui, c'est beaucoup.
Mais...
en 3 ans. Alors, oui, pas tous de la même intensité, j'imagine.
Ben, ça dépend. Oui, il y a quelques-uns qui sont résorbés naturellement.
Oui.
Mais j'ai aussi fait face à 2 mois de coma.
Suite à un AVC, suite à...
Non. Les 2 mois de coma étaient antérieurs aux AVC.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vous trouver dans le coma ?
Alors, les médecins se sont... Depuis que je suis ressorti de coma,
oui.
On a essayé de trouver les motifs.
Oui.
Alors, il y en a un qui pense que c'est une insuffisance respiratoire.
Ah, oui.
Et il y en a une qui a pensé que c'est une hémorragie des glandes surrénales.
Ah oui, donc pour le moment, vous n'avez... Oui, vous en souriez, mais... Non, mais je vous pose la question parce que c'est important pour vous, enfin, d'avoir au moins une explication, parce que c'est quand même très angoissant de...
Vous savez, j'ai heureusement ressurgi de tout ça.
Ben oui, parce qu'en 3 ans, vous avez eu cette accumulation de graves problèmes de santé.
Oui. Mais ça m'a permis également d'avoir du recul.
Ah, oui.
Parce que c'est pas une chose dont on ressort pas indemne.
Certainement.
Ça peut également vous expliquer mes problèmes d'élocution.
Eh bien, justement, non, je ne trouve pas à l'écoute.
Oui, c'est ce que quand j'ai des interlocuteurs au téléphone, ils me disent que ça ne s'entend pas.
Non. Vous avez le sentiment que ça ne sort pas aussi bien que vous souhaiteriez.
Oui,
vous ressentez.
Quand les mots ont trop de syllabes, j'ai du mal.
Ah oui, d'accord. Vous avez eu de la rééducation après ?
Quand je suis sorti du coma au bout de 2 mois de coma,
oui,
j'avais perdu 25 kilos.
Oui, mais 2 mois de coma, bien sûr que
donc,
c'est une épreuve pour le corps. Et pour...
Ah, ben, c'est pas facile. Mais j'ai pris le temps, j'ai eu la patience nécessaire. J'avais des médecins qui m'accompagnaient pour réapprendre à marcher.
Oui.
Et j'avais quand j'étais intubé pendant 8 semaines, j'avais du mal à manger.
Ben oui, forcément. Et à parler aussi.
Et à parler.
Ben oui.
Mais si vous voulez vous avoir, c'est surtout pour délivrer un message d'espoir aux interlocuteurs. Et également parce que je vous écoute attentivement. J'apprécie beaucoup de votre gentillesse et votre douceur.
Ben merci.
Et ce qui me frappe chez les auditeurs, c'est que très souvent, je me rends compte que peut-être, parfois, il se veut de prendre le temps d'un dialogue, d'échanges envers les personnes et que beaucoup de solutions se trouvent de ce point de vue. Et je veux prendre le temps parce que j'ai 4 enfants qui sont maintenant tous majeurs.
Oui.
J'ai eu à faire face à 2 de mes enfants à cet aspect des échanges parce que si j'ai pris le temps de les écouter, de les demander de me parler, de m'expliquer ce qu'il en était, c'est parce que j'ai eu la patience d'être attentif à ce qu'ils demandaient. Et je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi.
Ah oui,
j'ai
avec plaisir.
J'ai 2 enfants, 2 filles garçons,
oui.
Qui sont issus de 2 lits différents.
D'accord.
Alors, j'ai eu... Quand j'ai ma deuxième femme a accouché de ma fille. Mm-hmm. J'étais très complice avec mes deux plus grands enfants.
Oui.
À quel point qu'il y a eu de drames, parce qu'ils ne voulaient pas retourner chez leur mère. Ils étaient tellement dans la détresse que quand je devais les ramener sur leur mère, ils se couchaient devant la roue de la voiture.
Mais pourquoi ouais. ça se passait pas bien avec leur mère?
Ça ne s'est pas bien passé, mais bon, j'ai pris soin de leur faire part de qu'ils comprennent mon affection, mon amour pour eux, mais c'était un peu difficile. Et quand ma plus jeune fille est née,
oui.
Ma fille aînée, qui avait 8 ans, quand je lui ai expliqué qu'elle avait un petit sœur, elle a fondu en larmes, mais inconsolable.
Elle n'était plus la seule fille aussi. Elle avait peut-être peur de perdre votre amour.
Voilà. Alors, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi, je lui ai fait parler. Effectivement, elle craignait de ne plus avoir la même attention envers son papa.
Oui, oui.
Donc, je lui ai demandé ce qu'elle souhaitait. Et figurez-vous qu'on a pris le temps nécessaire. Mm-hmm. Et j'ai compris une chose, c'est qu'elle avait besoin, malgré qu'elle ait 8 ans, elle avait besoin de se sentir responsable pour toute la famille. Et voyez-vous, ça a conduit à une décision qu'on a prise ensemble. Ma fille aînée est la marraine de sa petite sœur. Mmh. Et mon fils aîné est le parrain de son petit frère.
Ah oui, je comprends. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, elle était valorisée par cette position-là, de devenir absolument. La marraine de sa petite sœur, ça lui donnait une place très importante.
Absolument.
Et oui, c'était intelligent de votre part de lui donner cette place-là, cette place unique, finalement. Elle restait, c'est une aussi unique de par cette place qu'elle prenait auprès de sa petite sœur.
Voilà. Ça lui a donné une responsabilité dans la famille.
C'est bien joué, c'est bien vu, oui.
Voilà, et j'ai fait la même chose avec mes deux fils.
Oui, et quelles sont leurs relations entre eux aujourd'hui?
Alors, ils sont les quatre ensemble.
Oui.
Je suis tellement heureux de les voir s'éclater tous les quatre.
Ah oui.
C'est un régal.
Oui. Ils sont très proches, donc.
Ils sont très proches, parce que j'ai mes quatre enfants sont tous majeurs.
Oui, oui, oui.
Alors, ils ont un parcours exceptionnel. Je suis très fier de ce que j'ai.
Ils ont dû avoir extrêmement peur pour vous, là.
Oui. Mes deux plus grands.
Parce qu'ils sont jeunes encore. Parce que il y a une auditrice, pardonnez-moi, hein, je vous interromps, mais il y a Cornelia qui demande. Alors moi, je sais pas, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais quel âge a ce monsieur pour avoir eu tous ces problèmes de santé? Et c'est vrai que regardais sur votre fille, vous êtes jeune encore.
Ben le 2 mai, j'ai eu 60 ans.
Oui, c'est ça.
Hein. Et mes enfants ont 31, 30, 24 et 23.
Oui, donc vous avez encore des enfants de jeunes adultes.
Voilà, absolument.
Ils sont venus justement pendant... Vous n'avez aucun souvenir de ces 2 mois de coma?
Non.
Aucune image, je veux dire, qui reste, de sensations? Non.
Non, pas du tout. C'est
non.
C'est parce que alors, à tel point que ma femme n'est plus là. Elle est décédée.
Ah bon, dans cette période-là aussi?
Non. Par la suite.
D'accord.
Donc, je suis seul chez moi. J'ai déménagé dans Lyon, donc à 200 km de la banlieue de Paris.
Oui.
Donc, je ne peux pas conduire parce que j'ai un problème j'ai un problème chirurgical, donc j'ai un écrasement du nerf cubital, donc je ne peux pas conduire.
Ah oui, c'est embêtant ça quand on est en dehors de Paris. On va continuer à se parler, Christian, si vous le voulez bien, puisque vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, j'imagine, après les infos de minuit.
Absolument.
Vous restez bien en ligne avec nous, à tout de suite.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
De 22h à minuit et demi, on se parle sur RTL, on partage nos expériences, nos vécus, on réfléchit, on avance ensemble. Tous vos questionnements, même les plus intimes, sont les bienvenus au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11. Et on va retrouver Christian. Merci d'avoir patienté, Christian. Je vous propose peut-être, avant que l'on continue, que vous nous parliez un petit peu de votre vie depuis que vous vous êtes installé là où vous êtes. C'est-à-dire, c'est dans Lyon, vous m'avez dit ?
Dans Lyon.
Dans Lyon.
À côté de Tonnerre.
Alors, il y a des messages qui nous parviennent déjà pour vous sur la page Facebook. Je vous propose qu'on les écoute ensemble, Paul.
Oui, avec plaisir.
Je voulais vous lire ce message du valet de cœur qui dit « C'est probablement un lieu commun de vous dire cela, mais vous n'avez pas une force de vie incroyable. Vous êtes mieux que cela. Vous êtes la vie. Tout mon respect à l'homme à l'écoute, l'homme au grand cœur, même contrariant que je viens d'entendre. »
Pourquoi contrariant ?
C'est ce qu'écrit le valet de cœur.
Moi, je n'ai pas senti contrariant, Christian. Je trouve... C'est vrai que... quand on vous écoute, on voit la. Enfin, c'est moi, je suis toujours impressionnée par la capacité de résistance d'un être humain, et physiquement et psychiquement. Parce que il y a une. Enfin, c'est incroyable ce que vous avez pris comme coup, enfin de le coma, les AVC, et de voir vous êtes là en train de nous parler. Et de vouloir délivrer un message d'espoir, finalement.
Oui, absolument. Absolument. Je vais vous faire une agrégation qui va vous faire rire les auditeurs. Auparavant, j'avais un médecin traitant qui a maintenant pris sa retraite. Quand je l'appelais pour prendre rendez-vous, il me disait « Tiens, vous êtes encore là ».
Oh là là, oui d'accord, c'est il faut beaucoup d'autodérision.
On s'en sort pas.
Oui, mais enfin, alors ça peut être dit, vous le connaissiez bien, il vous connaissait bien.
Moi, bien sûr.
C'était du second, troisième degré, quoi. Mais
oui, absolument.
Attendez, vous avez bougé un petit peu, Christian. On a un souci de liaison là, avec vous, et c'est le téléphone. Hein. Ça vient de. Il y a un petit problème de certainement de réseau. Vous avez dû bouger peut-être d'un poil, mais ça suffit à ce que. Pas terrible.
Attendez, je vais essayer.
Là, c'est mieux. Là, c'est mieux.
C'est mieux.
Bon. Oui.
Alors, le message que je voulais délivrer. C'est l'importance du dialogue, des échanges.
Oui.
Surtout dans un climat de conflit. J'ai écouté attentivement les émissions les jours précédents.
Oui.
J'étais frappé par le manque d'échanges qu'il y avait entre certains des personnes en conflit, notamment la grand-mère de Rose.
Vous savez ce que je vous propose, Christian, parce que ça serait dommage de passer à côté de ce que vous allez nous dire. Le son n'est pas très bon. On va procéder à quelques réglages parce que c'est vraiment lié au téléphone. Et tout à l'heure, on vous entendait parfaitement bien et très distinctement. Là, il y a un petit souci avec le téléphone, un petit problème de réseau. On va écouter un petit peu de musique. Ne raccrochez pas, surtout. On va vous reprendre en antenne pour procéder à des réglages de façon à pouvoir bien vous entendre. À tout de suite.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Et ce qui nous permet de retrouver Christian avec certainement un meilleur son, je l'espère.
Alors, est-ce que vous m'entendez mieux, Caroline ?
Oui, on vous entend mieux, mon cher Christian.
Alors, je vais me déplacer encore un peu parce que j'ai vu avec Paul.
Ne vous déplacez plus. Ne bougez plus si vous pouvez, à moins si vous êtes vraiment dans une position très inconfortable.
Je suis debout.
Eh bien, vous pouvez un peu... Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, les téléphones... Alors, ça permet de... le valet de cœur, parce qu'il disait contrarié, il a écrit un très beau message vous concernant, il voulait quand même apporter une précision dans ce contrariant en parlant. Il ne parlait pas de vous, Paul.
Oui, effectivement, ça y est, on a le fin mot de l'histoire. C'est le cœur, votre cœur qui est contrariant suite à 5 AVC. Surtout pas vous, Christian. Ce que dit le valet de cœur, qui ne voulait pas être contrariant lui non plus, d'ailleurs.
Bah, j'imagine bien, j'imagine
bien. J'avais pas de
doute. C'est pas son style au valet de cœur. Alors, dites-moi, vous vouliez... oui, vous parliez des témoignages.
Oui.
Des histoires, oui, parfois de famille.
Oui.
Et notamment, ce qui vous a frappé, c'est le manque d'échange, oui ?
Oui, le manque d'échange. Parce qu'il y a quelques jours, il y a une maman, un papa, d'un enfant, un garçon de 12 ans qu'il avait emmené au parc.
Ah, mais c'était hier soir. Oui, ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait réagir, ce monsieur ? Oui, oui, tout à fait. Il avait demandé à son fils aîné de 12 ans d'amener son petit frère de 3 ans au parc contre l'avis de son épouse, la maman du petit. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans ce témoignage ?
Mais c'est la réaction de la belle-mère.
Oui.
Parce qu'elle a été, selon moi, très brutale, peut-être même choquante. Mais, malgré tout, cette belle-maman a proposé de dialoguer avec le papa.
Oui.
Pas, d'après ce que j'ai compris.
Oui.
Il n'était pas très abordable.
Alors, en fait, c'est-à-dire que quand elle est rentrée, oui, c'est vrai, vous avez une excellente mémoire, et il nous expliquait que quand elle est rentrée, elle s'est effondrée, il l'avait jamais vue dans cet état-là, elle criait, elle hurlait, elle voulait à ce moment-là parler, et lui a eu... ce qui est une réaction qu'on peut comprendre aussi, même si on se dit, il voulait un peu que la tension retombe, qu'elle retrouve un peu de calme, parce qu'il a eu peur que ça dégénère. Oui. Et malheureusement, elle s'est complètement refermée comme une huître.
C'est dommage. Si ce monsieur avait eu la présence d'esprit de continuer le dialogue, comme il m'avait invité à le faire. Comme elle a eu une réaction qui est une réaction
émotionnelle,
surprenante, mais sous-jacente, il y avait probablement une raison pour ça.
Oui, ça, forcément. Oui.
Et s'il avait pris le temps de continuer le dialogue, il aurait peut-être mieux perçu la blessure que sa réaction avait provoquée. Et pour ne pas la reproduire et éviter ce genre de cas. Voilà.
Oui, j'entends très bien ce que vous dites, Christian, mais est-ce qu'en même temps, est-ce qu'on peut vraiment dialoguer avec quelqu'un qui est débordé émotionnellement, qui hurle, qui crie, qui pleure? Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui, à ce moment-là, peuvent sortir, justement, parce qu'on est à fleur de peau, et qui peuvent être reprises plus tard, mais je ne pense pas qu'on puisse réellement parler de dialogue avec quelqu'un qui est hors de lui. Mais j'entends ce que vous dites, que moi, d'autant plus que ça m'avait traversé l'esprit en me disant peut-être que là, il y aurait quelque chose qui serait sorti. Bon,
je comprends ça. Mais je vais vous donner mon deuxième anecdote. La deuxième maman avec mon fils m'avait appelé au secours.
Oui.
Parce que mon fils donc, avait levé la main sur elle. Donc c'est une chose qui, selon moi, n'est pas acceptable.
Il avait quel âge, cet enfant ?
15 ans.
Ah oui, d'accord. Ouais, ouais.
Donc elle m'a appelé au secours. Je lui suis rendu immédiatement. Mon fils a dû comprendre que j'étais en colère par rapport à son geste. Parce que j'ai toujours exigé de tous mes enfants, vous savez, mes 4 enfants, qu'ils aient énormément de respect pour leur maman, quel qu'il soit son contexte de vie.
Oui.
Bon. Ce mon fils n'a pas compris. Il m'a dit, papa, tu veux me casser la figure ? Non, je lui ai dit, je t'emmène au bowling. Donc, on est allé au bowling. Et petit à petit, j'aimais à se confier, me confier le contexte. Il était à une addiction des jeux vidéo. Mais là, donc il a compris, petit à petit, je lui ai fait comprendre quelle est la solution qu'il pouvait trouver. Deux jours après, il était dans un avion avec mon parrain. qui est dans les Pyrénées, sans connexion Internet. 15 jours, il était complètement guéri.
Comment avez-vous fait? J'imagine qu'il y a des parents qui doivent ouvrir grand les oreilles parce que l'addiction aux écrans, aux jeux vidéo, c'est pas facile de... Ah, c'est pas facile hein, avec les enfants ou les ados de régler le problème comme ça en deux temps, trois mouvements. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Mon fils a compris qu'il avait besoin d'être arraché de cette addiction.
Il s'en voulait aussi certainement, il devait culpabiliser beaucoup de gestes qu'il avait eus après coup.
Il a été conscient qu'il fallait absolument trouver une solution pour qu'il s'éloigne de ça. Donc, comme mon parrain n'avait pas de réseau, il a pris l'avion jusqu'à Pau, et mon parrain lui a proposé des promenades aussi sur de Gavarnie, etc. Du coup, il n'avait pas de réseau, donc, pendant 15 jours, il a été sevré. Mais pour la solution qu'il a fallu trouver ensemble, père et fils, il a fallu 3 heures de dialogue au bowling.
Vous l'aviez amené au bowling?
Oui.
Oui.
Parce que quand je l'ai rencontré chez sa mère, il a fait peur que je lui casse la figure. Donc je lui ai dit, non, je t'emmène au bowling. Donc
Il s'est senti mieux, quoi. Il avait très peur que vous réagissiez sur le même mode et que ça soit dans la colère. Or, finalement, vous en avez profité pour un moment d'échange, d'intimité avec lui.
Je l'ai amené, si vous voulez, de lui-même, à trouver la solution.
Mais alors, d'où vous vient cette capacité, finalement, à mettre des mots dans des situations où parfois ils font défaut? Parce que là, bien sûr qu'un adolescent qui est dans un passage à l'acte, vis-à-vis de sa mère ou de son père d'ailleurs, c'est tout de suite à prendre en considération parce qu'il ne faut pas que ça s'installe. Et souvent, c'est qu'il y a un manque de mots, il y a quelque chose où l'adolescence, on est aussi dans le pulsionnel. Mais d'où vous vient, vous, cette capacité? Vous en avez manqué? Qu'est-ce qui fait que vous avez à cœur de mettre des mots, finalement, sur des situations, des ressentis?
Alors, je suis passionné par la langue française, d'une part. Et d'autre part, la passion, je suis également passionné des échecs.
D'accord.
Ce qui m'apprend est une bonne... leçon de patience.
Un sang-froid, un calme intérieur, une réflexion,
absolument.
Une stratégie.
Absolument. Et je me suis également appliqué à apprendre le russe.
Ah bon? Et pourquoi le russe?
Parce que ça me plaisait, je trouvais ça agréable comme langue. Hmm. Et c'est une langue cyrillique, il faut du temps pour apprendre la
prononciation. Oui, je veux bien vous croire. J'ai déjà du mal avec l'anglais, alors oui, le russe, oui.
Et ça m'a appris la patience. Donc, le message que je voulais exprimer avec les personnes qui sont éventuellement en conflit, c'est que l'échange est une manière d'exprimer des sentiments d'une façon différente, une attention, une gentillesse, mais d'une façon différente, parce que l'échange est une manière d'exprimer ce que parfois on n'arrive pas à faire simplement par la parole. Donc certaines personnes...
Oui, mais certaines personnes sont en manque de mots, en panne de mots.
Absolument.
Et souvent, c'est là d'ailleurs que c'est de ça dont naît la violence ou l'agressivité, quand on est... En manque de mots. Et j'entends très bien, c'est très sage ce que vous nous livrez. Mais en même temps, dans un couple, justement, dès qu'il y a des enjeux affectifs, souvent, on n'est plus dans cette capacité à entendre ce que l'autre nous dit. Parce qu'on est happé par nos propres émotions.
Dans ce cas-là, il y a une faille dans l'amour.
Je crois
parce
pas.
Que quand on aime, on est attentif à la gentillesse, à la bienveillance.
Oui, mais on peut s'aimer et en même temps avoir un peu des coups de chaud, des coups de sang avec l'autre qui nous énerve. Enfin, vous voyez, c'est, on n'est pas non plus des maîtres yogis en permanence, quoi. Non enfin...
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui peut... Enfin,
se travailler.
Se travailler. Aimer, ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile.
Ah non. Non, c'est vrai.
Mais parfois, il faut que ça arrive à éviter les failles dans l'amour. Parce que c'est ça qui est dangereux. La personne qui avait un parcours très... La personne que vous aviez auparavant qui semblait exigeante.
Ah oui, l'âme, oui. Ouais, oui, une exigence démesurée hein, vis-à-vis voilà. d'elle-même. Et...
C'est pour ça que j'avais écrit à Paul en lui disant quand il y a trop d'exigences,
oui.
trop trop d'ambition, un couple ne peut pas se construire s'il y a une partie qui consiste également à avoir des... sacrifice.
Oui, c'est vrai, c'est indéniable. Mais en même temps, il y a tellement de choses qui parfois nous submergent, nous dépassent dans l'échange entre ce père et sa compagne. Ce père était plein de bonne volonté, enfin, je veux dire, et dépassé par le débordement émotionnel de sa compagne. Et une chose qu'on n'a pas relevée hier, mais qui après coup pouvait aussi, je disais, il y avait sur le poids de la trahison, mais il y avait quelque chose autour, peut-être aussi, qui a surgi autour du rapport entre les deux enfants, puisque oui. les enfants n'avaient pas la même mère, et dans le... Finalement, ce rejet qui s'est exprimé à ce moment-là du fils aîné, qui oui. avait amené ce petit frère au parc,
oui.
bah, n'y avait-il pas là quelque chose de l'ordre d'une rivalité qui ressurgissait
c'est possible, aussi.
Entre les deux enfants, ou est-ce qu'il n'y avait pas, vous voyez, après coup, je me demandais si quand même il n'y avait pas quelque chose ou de ce qu'elle percevait comme une différence, puisque... Bah, elle parlait de son fils, âgé de 3 ans, mais et ce monsieur était aussi le père de cet enfant, donc après tout, il avait aussi son mot à dire sur l'éducation.
Bien sûr.
Mais
bien
il y avait
sûr.
Surtout ce. Finalement, comme si ce garçon de 12 ans était mis en termes de responsabilité à la même place que le père.
Oui,
il n'a que 12
là,
ans.
Caroline, c'est là et aussi, parce que vous avez bien compris que le papa. Était choqué de la réaction.
Oui, choqué au sens de, pas en termes de jugement, mais profondément déstabilisé. En fait,
oui,
il ne comprenait
absolument.
Pas.
Oui, c'est là,
voilà.
C'est là, parce que je pense que le garçon de 12 ans
oui.
est témoin de cette
oui.
conflit.
De son conflit. Je trouve ça très dur
aussi,
pour lui.
Voilà. Mais c'est là aussi qu'il faut que le papa prenne le temps d'expliquer pourquoi cette réaction s'est produite.
À son fils, oui, je pense.
Oui,
mais
absolument.
Oui, mais comment peut-on expliquer quand on ne comprend pas ce
prendre
qui se
le
passe.
Temps. Prendre le temps. C'est pour ça que je vous dis, comme je souhaite que vous puissiez le faire
oui.
transmettre à vos auditeurs,
oui.
il faut savoir prendre la patience
oui.
de l'échange.
Oui. Bon, en tout cas, on vous écoute vraiment avec beaucoup d'attention et d'admiration parce que.
Non, surtout pas.
Bah,
surtout...
Enfin, quand on voit, si, cette. Ce par quoi vous avez traversé cette espèce de calme intérieur, cette espèce de tranquillité avec laquelle nous vous parlez, cette invitation à davantage nous écouter, à faire preuve davantage d'indulgence et de patience les uns vis-à-vis des autres. Si, c'est une leçon de vie, même si vous ne voulez pas aller dans ce sens-là et que vous restez modeste, mais ça... Votre capacité nous impressionne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian, d'avoir témoigné ce soir. Je vous embrasse.
Merci.
Prenez soin de vous.
Caroline.
Au revoir.